trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. Igor Demac nous accompagne également. Bonsoir Igor.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes directeur associé de Vital Épargne. Et à nos côtés enfin, Thomas Vette. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes gérant et responsable du Fixed Income chez Spirit Asset Management. Parole à l'obligataire, Thomas, pour votre première. Vous tombez bien, parce que c'est un vrai sujet du coup d'importance. Non, mais on regarde tous évidemment le spread OAT Bund notamment, la différence de rendement entre l'obligation française à 10 ans et l'obligation allemande à 10 ans. Comme je le laissais entendre en introduction, ce qui est intéressant de noter, c'est que si en début de semaine, on a pu voir une tension spécifique sur la dette française, le taux français est monté jusqu'à 3,30 et donc générait cet écartement du spread avec l'Allemagne. En fin de semaine, on se retrouve avec une situation assez différente puisque le taux français à 3,10% pour la dette à 10 ans est exactement sur les niveaux qui prévalaient avant l'élection européenne et donc la dissolution de l'Assemblée nationale française. Et c'est donc bien le mouvement de refuge vers un actif comme la dette allemande qui a créé cet écartement du spread.
Ouais, tout à fait. Bon, ce qu'on peut dire déjà en premier lieu, c'est que la volatilité sur le marché obligataire qu'on a connue depuis et qu'on connaît depuis 3 ans, qui était uniquement de la volatilité taux, là on commence à avoir de la volatilité aussi un petit peu plus sur le marché du crédit et même des spreads périphériques. Donc je vais pas aller jusqu'à dire que la France est un pays périphérique avec juste cet événement, mais en tout cas, force est de constater que cette semaine le spread français a évolué comme les spreads de l'Italie, par exemple.
Voilà, on a évolué de concert avec des pays périphériques comme l'Italie.
Complètement. Et dans la même proportion, puisqu'on est, on est passé de 50 à 80 sur le spread français, donc 70% d'augmentation. En proportionnalité, c'est assez énorme. Le spread italien est passé de 130 à 160. On a pris aussi ces 30 points de base, mais sur un niveau plus élevé. Mais globalement, je suis d'accord avec ce que vous disiez. Le spread français s'est écarté en début de semaine par une remontée des taux, et sur la fin de semaine, c'est un flight to quality général qui a fait écarter le spread. Mais avec une spécificité sur ce flight to quality, c'est que, en termes généraux, le spread français profite du flight to quality et est considéré comme une dette core de la zone euro. C'est pas le cas cette fois-ci, à juste titre,
avec
l'instabilité politique.
Ouais. Comment on explique qu'on soit passé d'un mouvement à l'autre ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'en début de semaine, c'est bien le 10 ans français qui se tend, et pourquoi est-ce qu'en fin de semaine, c'est plutôt le refuge allemand qui fait, office d'intérêt pour les investisseurs ?
On n'a pas vraiment le choix, j'ai envie de dire, si on veut laisser le spread français sur des niveaux de 80 points de base. S'il y a eu ce flight to quality sur l'Allemagne, bien évidemment, on a la même chose aux US. Le flight to quality marche aussi sur le 10 ans américain. Si le mouvement qu'on a vu cette semaine sur les taux allemands n'avait pas été du tout suivi par les taux français, on ne serait pas à 80, on serait tout de suite à 120. Et donc le marché aussi regarde ce spread, ce niveau de stress, et le stress augmente, mais pour le moment on est revenu, comme le disait Pauline en introduction, sur les niveaux de 2017. Là on peut discuter, est-ce que ces niveaux actuels de 80 points de base sont justifiés ou non, sont exagérés ou non. À mon sens, non. Aujourd'hui il y a un vrai risque. En 2017, si on prend le comparatif, on se remet en avril 2017, quelques jours du premier tour, possibilité d'avoir un second tour Mélenchon-Le Pen, donc la dette française qui stresse, qui monte à 80 points de base de spread versus Bund. Si on prend aussi d'autres paramètres, le déficit français à ce moment-là était à 3,7. La dette publique française représentait 100% du PIB, donc c'est des niveaux qui étaient déjà élevés. On se remet aujourd'hui, l'instabilité elle est quand même autre, elle est encore exacerbée, puisque c'est une élection législative qui va avoir lieu. Il y a encore plus de risques aujourd'hui, à mon sens, que ce soit la gauche, ou l'extrême gauche ou l'extrême droite fasse un gros score aux législatives. Donc il y a un risque d'instabilité politique encore plus important que 2017, puisque 2017 il suffisait à Emmanuel Macron de passer au second tour pour globalement gagner contre l'un des
ça s'était calmé assez vite.
C'était calmé très vite. Là on sait que dans tous les cas il n'y aura pas une bonne solution, même si Macron arrive à avoir il n'aura pas une majorité, à avoir une
quelques députés élus
quelques députés élus, il devra composer. Donc aujourd'hui, 80 points de base de spread.
Donc le 80 de 2017, ça donnerait quoi au pic en 2024 dans la situation actuelle?
Alors,
si on essaye un exercice de transposition ou de translation.
J'ai pas la boule de cristal, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le déficit il est à 5,5, la dette publique elle est à 110-115. On est sur des niveaux d'endettement et de déficit supérieurs à 2017 avec une instabilité supérieure. Donc le spread, il doit être supérieur et il peut être supérieur de manière durable. À ce qu'on a vécu en 2017. Donc les niveaux actuels, ce sera peut-être la nouvelle norme, mais on va passer par un pic qui peut atteindre 120, 130 avant de faire réagir potentiellement la Banque Centrale Européenne.
C'est un ordre de grandeur de ce qui serait un seuil de douleur vraiment qui mettrait toutes les institutions européennes en mission, j'allais dire, sur le sujet.
Le 120-130, c'est l'équivalent du 300 sur le BTP, à mon sens.
Sur la dette italienne. D'accord. Qui sont 250-300 de spread, c'est souvent ce qui est indiqué comme étant des seuils un peu d'alerte ou... Quelques alarmes peuvent retentir ici et là dans les salles de marché, notamment peut-être du côté de la Banque Centrale Européenne. Avant d'en arriver là, Igor, votre bilan de la semaine et le rationnel des mouvements qu'on a observés depuis lundi sur la France et puis le phénomène un peu quand même de diffusion à l'Europe qu'on ne peut pas nier.
Oui, alors la décision politique un peu surprise, disons surprenante de dissolution, ça crée logiquement les macro-trades qu'on connaît, en fait, qu'on a détaillés dans le passé, avec effectivement une spécificité, mais qu'on oublie, c'est que la trajectoire des comptes publics était très mauvaise sous la précédente mandature, enfin actuelle, mais même on est quasiment au pire. Alors je mets le Covid de côté, mais on est maintenant à un déficit structurel de 5%. Et on ne peut pas bénéficier de la même complaisance que les États-Unis. On n'a pas de réserve, de monnaie de réserve. Nous, l'euro, c'est un Deutsche Mark déguisé, donc ce n'est pas nous qui le pilotons véritablement. Et de toute façon, avec les déficits jumeaux et l'endettement public. Donc je pense que c'est une excuse pour les marchés d'enclencher les macro-trends qu'on connaît, c'est-à-dire l'Europe périphérique.
Mais... Donc ce qui était exagéré, c'était d'avoir un spread France-Allemagne à 30-40, quoi.
Oui, et puis il faut quand même voir qu'aujourd'hui encore, c'est très complaisant. Je veux dire, 3,10 sur le 10 ans français ou 3,15 avec 2,5 d'inflation, en taux réel, c'est rien du tout. C'est finançable pendant des années à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de risque de faillite tel qu'on le décrit. Il y a un macro-trend qui se met en place chez les anglo-saxons. C'est très simple. En fait, on leur a donné une vraie facilité pour faire ça sur les banques françaises, sur les actions françaises, sur les small caps.
Ah, il y a un playbook.
Là, c'est bien sûr. Celui qui, lundi matin, met pas un ordre de vente à découvert sur tous ces mécanismes et ne se rachète pas peut-être dans 2, 3, 4, 5 semaines, il faut qu'il change de métier, vraiment.
Mais c'est un no-brainer, quoi.
Voilà, ça se passe, qu'aujourd'hui, c'est très simple. Et c'est un petit peu dommage d'avoir donné dans la main de ce genre d'investisseurs. Après, la trajectoire des comptes publics est très mauvaise et depuis 1974, on n'a pas un budget en excédent. Et donc, c'est
mais
ça
on le avait la même trajectoire. On avait la même trajectoire il y a une semaine, quand le spread est à 40, avec les métriques budgétaires dégradées telles que vous les signalez. Igor, ça veut bien dire que dans le statut de l'OAT, il y a quelque chose d'autre qui fait qu'on n'est pas traité de la même manière qu'un comparable sur le marché de la dette.
Pour l'instant,
et ce quelque chose-là, visiblement, il a lâché quand même.
Parce que nos voisins, même s'ils subissent un peu par contagion ou contumace nos soucis, eux ont fait des efforts. On signale les efforts du Portugal, signale l'Italie qui
Espagne,
a énormément travaillé sur sa dette publique. Ils ont perdu 20 points de pourcentage de dette publique. Donc nous, on n'a pas du tout fait cet effort parce que intellectuellement, le politique français, quel que soit le bord jusqu'à présent, c'est toujours cru assez puissant ou assez lié à l'Allemagne pour se dire non, mais nous, on nous financera toujours parce qu'on est la deuxième puissance économique entre guillemets de la zone euro. Aujourd'hui, cette question, elle est un peu moins facile pour y répondre, c'est un peu moins facile.
D'accord.
Pour les investisseurs.
On a moins de marge de manœuvre que ce qu'on pensait dans cette idée-là, que la France est arrimée à l'Allemagne et que c'est l'axe cœur du réacteur de l'euro et que à ce titre-là ou à ce compte-là, la France peut se permettre peut-être un peu plus que par rapport à d'autres pays.
Disons que même si on a été la nation phare de l'Occident sous la philosophie des Lumières, chaque fois que les États ont été quand même confrontés à une problématique de crédibilité budgétaire, quand on a de la dette qui est majoritairement détenue par des non-résidents, on est quand même un peu obligé de se plier aux exigences de ses créanciers. Liz Truss, Salvini, en Grèce, c'est quand même quelqu'un d'extrême gauche qui a appliqué le programme du FMI de rigueur. Donc, vous voyez que, en fait, c'est pas une question de couleur politique, forcément, c'est une question de
pratique. Bon. Et du fait de sa profondeur, de sa liquidité, la France est un pays, et peut-être même le pays en Europe, dont la dette est le plus détenue par les étrangers.
Alors, c'est mieux qu'avant. On est passé de 70 à 50, d'accord. C'est mieux.
Mais on reste un des pays les plus détenus.
Si les 50% résidents font rien, parce que c'est des institutionnels et les classes 50 os sont des traders fous à Wall Street et à Londres, le résultat est le même qu'avoir 100% ailleurs. Hein.
Frédéric, bon, votre semaine. Et puis, la question quand même un peu pratico-pratique, quoi. C'est-à-dire, quelles ont les décisions, quelles décisions est-ce qu'on a été amené à prendre pour le compte des clients que vous avez chez Mirabeau?
Je vous avouerai que c'est peut-être la semaine la plus facile qu'on ait eue.
Je
vais être provocateur là-dessus, mais ouais. Lundi, on ouvre, on connaît les programmes des deux bords. On voit tout de suite que concession, ça va taper. Banque, assurance, ça va taper. Médias, ça va taper. Donc ça, c'est assez clair. Donc, je vais vous dire, nous, on a peu d'exposition sur la France, mais clairement, on a vendu BNP, AXA, Vinci. Première décision immédiate.
Immédiate. Matin, 8h, quoi.
9h.
9h, oui, d'accord. Oui.
Mais oui, le temps de préparer les ordres. Mais ça a été immédiat. Et donc, le mécanisme, il a mis du temps à se mettre en place. Après, on est à 3,10 sur le 10 ans français. On m'a dit ça il y a une semaine. Et vous êtes fou, quoi, c'est pas possible. Et on pensait vraiment que les taux allaient remonter. D'ailleurs, on est sorti de la dette française, pour être clair, immédiatement, dans le même mouvement que.
Bah, ça paraît cohérent, hein.
Voilà, donc,
oui.
on a fait ce mouvement, on a rebasculé sur du Bund immédiatement, ouais. Également, sur du 10 ans allemand. Et puis, il y a un phénomène aussi, on l'a oublié quand même par rapport à l'écartement des spreads. La BCE aujourd'hui a des mécanismes, hein, des mécanismes anti-fragmentation qui permet. Alors, on verra si on l'ajuste un jour, parce que la règle d'application de cet outil anti-fragmentation de la BCE, honnêtement, c'est si on a une tension sur les spreads de manière, on va dire, non volontaire, en tout cas non provoquée par les... Oui. Où on en est aujourd'hui? Est-ce que l'écartement des spreads est voulu ou pas? Donc, c'est une question qu'on doit se poser, mais c'est vrai qu'il y a ça à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, la BCE a des mécanismes pour limiter l'impact de la remontée des taux. Donc voilà, c'est, honnêtement, je pense que la semaine, c'est pas provocateur de le dire, a été plutôt facile à lire. En tout cas du côté français, il a été de manière assez homogène. D'ailleurs, les titres ont baissé de manière homogène.
Bah, je disais, c'était une mal en piste, c'est-à-dire que vraiment le marché lundi mardi regarde avec un peu de distance, et puis au fur et à mesure, ouais. Effectivement, c'est tout à fait consistant avec le storytelling politique.
Exactement. On va dire que on a une baisse, allez, par des flux indiciels qui ont mécaniquement fait baisser le marché, avec la surpondération des baisses sur les acteurs que j'ai cités au préalable. Petite quand même modification, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on commence à... Alors, dans une baisse, hein, c'est du relatif, mais on commence à avoir des petites distinctions quand même sur l'indice qui montrent que, oui, on va peut-être un petit peu loin sur des acteurs qui n'ont aucun chiffre d'affaires en France ou quasiment aucun chiffre d'affaires et qui baissent de manière par complaisance et par symétrie avec l'indice. Et là, je trouve que aujourd'hui, c'est une petite indication quand même. On commence à faire la distinction quand même un petit peu sur les valeurs et celles qui sont concernées par les dégradations.
C'est pas des ventes panique là.
Là, non, pour l'instant, il y a pas de panique. La vol est montée. Ce qui est très intéressant.
Vol et volume, hein.
Les vols et volumes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai rarement vu une différence de vol entre l'Europe et les États-Unis de cette manière. C'est-à-dire qu'on doit avoir 5 ou 6 points de vol d'écart. On a normalement une sorte d'homogénéité d'évolution de la vol. Et là, pour le coup, on a un écart.
Il y a un océan qui s'est parlé d'eux aujourd'hui.
Honnêtement, pour quelqu'un qui fait un peu de trading et de hedge, commencer à jouer un peu sur l'écartement de vol, c'est peut-être pas idiot aussi. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce point de vue-là.
Ouais. Et sur l'idée de la BCE, moi, je veux bien qu'on en discute. Alors, on est dans la fiction pour l'instant, mais Christine Lagarde, qui s'exprimait encore aujourd'hui, visiblement, elle a complètement balayé une question qui lui était posée sur la France et est-ce que la BCE allait venir soutenir la France et son marché obligataire. Je me souviens, en revanche, très bien de ce qu'elle disait quand ils ont dessiné le TPI, en l'occurrence, puisque c'est ce filet de sécurité qui avait été mis en place à l'été 22 dans le cadre du resserrement monétaire qui allait venir. Le sujet, à l'époque, c'était l'Italie, avec ensuite l'élection de Giorgia Meloni. À chaque fois, Christine Lagarde précisait que le TPI, certes, il y a une approche très discrétionnaire, mais en tout cas, ce pourquoi le TPI n'est pas fait, c'est d'aller corriger des choix et des erreurs de politique intérieure. On veut bien défendre un pays qui serait soumis à des attaques non justifiées venant de l'extérieur, attaques de marché, j'entends. En revanche, si les réactions de marché sont la conséquence d'un choix de politique intérieure, c'est pas cet instrument-là. Ouais,
là,
que...
c'est, je dirais, c'est la France.
Et le discours et la,
voilà,
et la pratique.
Et c'est juste se dire que cet outil existe. Et pour quelqu'un qui souhaiterait attaquer la France, c'est prendre aussi ce risque de se prendre un petit retour de bâton. Donc voilà, de dire que le mécanisme existe, c'est quand même peut-être aussi ce qui explique pourquoi on n'est pas plus haut au moment où on se parle.
D'accord. D'accord avec cette idée, Thomas, que quand même, dans l'esprit des investisseurs obligataires, on sait que derrière la France, il y a aussi la Banque Centrale Européenne et que, bon, attention à ne pas se mettre en face trop violemment d'une banque centrale comme la BCE.
Non, c'est évident. Et outre le TPI, même s'il y a des réductions d'APP et du PEPP, il y a quand même...
Donc les plans de quantitative easing.
Oui. Il y a quand même des réinvestissements qui se font chaque mois à un rythme un peu moins...
Ouais.
Et ça, par contre, Christine Lagarde a toujours
été... Le PEPP, c'est censé s'éteindre en fin d'année, là.
C'est ça, c'était ça s'était en fin d'année, mais le PEPP continue et ça décroît, mais il y a toujours moyen d'ajuster aussi les réinvestissements, hein. Ça, là, dit que la flexibilité du réinvestissement,
le PEPP offrait beaucoup de flexibilité.
Voilà, l'APP un peu moins,
mais ce que je veux dire, c'est que chaque mouvement de la BCE vis-à-vis de la France sera quand même scruté, surveillé de près, à commencer par les pays partenaires, pour s'assurer que tout ça se fasse quand même dans un cadre juridique solide.
Après, on peut tout envisager. Hein. Là, on est dans la fiction, comme oui. Vous le disiez. Le TPI peut être utilisé, même si c'est vrai que je suis plutôt du parti de dire qu'actuellement, c'est un ajustement logique de marché avec une situation économique, enfin surtout politique, qui est en train de se mettre en place. Mais la Banque Centrale Européenne aussi pourrait, à un moment donné... Pourquoi pas, si on reste dans la fiction, prolonger un petit peu le PEPP, revenir là-dessus, plutôt qu'utiliser le TPI et de mal l'utiliser. Ouais. Entre guillemets. Donc c'est pas impossible aussi qu'elle revienne sur des choses qu'elle a dit.
En cas de niveau
80 points de base.
Non, 120-130, c'est ce que vous disiez. 120-130, on commence à réfléchir à des moyens peut-être.
80 points de base, il n'y a pas de.
Non, mais.
Et puis on voit sur le marché du crédit aussi, on n'en a pas parlé en restant sur le marché obligataire. Ouais. Sur le marché du crédit, très peu de réactions en début de semaine. Les spreads investment grade n'ont pas bougé.
Donc les émetteurs français n'ont pas souffert en début de semaine.
Non, alors sauf les bancaires,
oui.
Qui ont commencé.
D'accord.
Mais les émetteurs investment grade n'ont pas souffert, même jusqu'à la fin de semaine. Hein. Là, le marché investment grade suit le flight to quality. Donc le crédit investment grade se porte bien. Sur le high yield, on s'est élargi de 40 points de base. C'est pas incroyable hein, sur la semaine. C'est une remontée normale. Hein. On est passé de 300 à 340 sur les spreads à yield. Il y a les subordonnées financières, bancaires et les rentes subordination les plus élevées. Donc les cocos, les AT1 qui ont, elles, perdu 5-6 figures.
Donc les actifs les plus risqués hein, dans cet univers-là. D'accord.
Qui ont perdu un petit peu, mais le reste se tient bien pour le moment.
On a même, il y a des émetteurs français là qui ont des taux, des taux inférieurs à la dette française aujourd'hui, c'est ça, Thomas?
Sanofi, LVMH ont des rendements à 10 ans inférieurs à la dette.
S'ils veulent émettre aujourd'hui, ils payent moins que la France pour placer de la dette.
En même temps, en tant qu'investisseur, vous préfériez prêter votre argent à LVMH ou à voilà.
Le marché le dit très bien. Igor, oui, alors je ne sais pas, vos commentaires sur la BCE, si on veut aller un peu dans le scénario fiction pour l'instant, mais bon, il faut quand même avoir l'idée d'un filet de sécurité de ce point de vue-là. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'un changement structurel quand même de la perception du marché, des investisseurs globaux vis-à-vis de l'OAT? Je reviens à ce sujet. Est-ce que 30-40, c'était pas un peu exagéré? Et est-ce que demain, structurellement, quoi qu'il arrive le 30 juin et le 7 juillet et au-delà, la prime de risque sera un peu plus élevée désormais pour la France?
Moi, j'adore ça, mais plutôt au cinéma. Donc, je pense que, en plus, j'aime pas trop interpréter les banquiers centraux. C'est l'agent économique financier le plus puissant. Donc, effectivement, faut pas trop se mettre en face.
Certes.
Ce que je pense sur la situation, c'est que d'abord, la création de l'incertitude, évidemment, c'est ça que les marchés valorisent. Après, ils sont allés très vite dans la crédibilité budgétaire et donc dans le résultat des législatives, parce que on parlait de deux bords, en fait, il y en a trois dans les sondages. Hein. Ils ne sont pas non plus très éloignés. Donc là, moi, j'ai l'habitude de dire on ne gère pas avec sa carte d'électeur. On voit effectivement qu'il y a des opportunités. On parlait d'LVMH ou de BNP. Je pense qu'il vaut mieux être même maintenant actionnaire de BNP avec le rendement du dividende plutôt que créancier. Parce qu'à ces niveaux-là...
Bon, ouais.
évidemment,
on a reconstitué un peu de prime sur ces actifs-là.
Si on met une taxe de 5% sur le profit des banques sur les 5 prochaines années, qu'on leur empêche de verser des dividendes, mais bon, encore une fois, tout ça, c'est un peu tôt pour imaginer. Donc, c'est des macro-trends faciles et tout se recorrèle à la baisse quand ça va mal dans une zone monétaire. L'euro a baissé, les spreads ont augmenté. Pas tellement, mais ils ont quand même augmenté. L'OAT, les actions. Donc là, on est dans un mouvement un peu de... Bah, pas panique, mais moutonnier, oui, tout ça va mal. Bon, la situation...
Et c'est des mouvements dont on peut imaginer qu'ils puissent se renverser ?
Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a un scénario qui, d'ailleurs, je pense dans les sondages, se voit, c'est que gouverner va être assez ardu, puisqu'il y aura des blocs. Et donc, la tendance d'une non-majorité... va être en plus accentué.
D'accord. Ce sera encore moins gouvernable que l'Assemblée précédente. Quoi.
La dissolution, on l'a déjà fait 5 fois en France, dans des conditions différentes, et avec des majorités derrière absolues qui étaient contre, entre guillemets, le parti du président. Mais là, c'est tout à fait nouveau. Donc ça, on ne peut pas empêcher les marchés de mettre une prime à cette nouveauté. Il y a aussi quand même, je pense, une prime à l'imprévisibilité de la décision politique, parce que je ne suis pas sûr que ça soit... pour une décision aussi majeure, l'annoncer quelques heures après des résultats, ça fait un peu colérique. Je pense que la tempérance et l'impétuosité, le fait de ne pas être impétueux pour ce genre de sujet, moi je pense que ça rassure les investisseurs. Donc ça va rester quand même, d'être capable de créer un choc, même si, encore une fois, la France va se financer à 3%, 3,10% en taux nominaux, donc l'effet de l'inflation. Donc est quand même dans l'argent gratuit.
En termes de finances publiques, ça n'allait pas avant, ça ne va pas plus mal au moment où on se parle.
En revanche, le déficit structurel de la France, surtout si on promet qu'en 2025, on va finalement faire baisser les factures d'électricité. Parce que, en fait, c'est la course à l'échalote. En France, ce qui marche, c'est offrir des chèques aux gens, quel que soit le bord. Mais il y a un moment où ça coince. Là, ça coince.
C'est un peu ce que dit le marché.
On ne peut pas faire éternellement des chèques, sinon après, il faut dévaluer. On ne peut plus. Ou il faut annuler une partie de la dette.
Concrètement, moi, je veux bien... quelles ont été les questions des clients, là, cette semaine, et qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Concrètement, Igor, vous dites on ne gère pas avec sa carte d'électeur.
Concrètement, un client paniqué qui appelle... fait référence à la commune de 1848, à Saint-Pétersbourg en 17, ou à Berlin en 36. Non mais la physiologie d'un client très inquiet, c'est ça. Après, vous allez dans la rue, les gens, ils pensent à quoi ? Il n'y a pas eu assez de soleil. Je grossis le trait, mais c'est surtout le pouvoir d'achat.
Ils n'ont pas tort.
Déjà, ils n'ont pas tort. Et puis, c'est le pouvoir d'achat qui est clé. D'ailleurs, on le voit dans ces élections, ça revient dans tous les discours. Donc, il ne faut pas non plus... exagérer ces références historiques. Il y a beaucoup de mécanismes, vous les avez cités, qui sont là pour quand même essayer de faire que les systèmes sociaux continuent d'être financés. Et on verra ce qu'il advient de ces élections, mais probablement un gouvernement d'union ou de composition pour gérer les affaires courantes.
Mais je reviens, qu'est-ce qu'on dit aux clients ? Le client qui n'a pas vendu, là, vendredi, qui a vu le CAC... perdre ses 10% de gains qu'il avait accumulés depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on lui dit de faire ?
On lui dit, il y a un point d'entrée. Nous, on avait dit, on arrête d'acheter au début d'année. On avait acheté par tranche, on achète toujours progressivement. On leur avait dit, il y aura de la volatilité sur les élections européennes, sur l'été et avec l'élection des gérontocrates.
Donc, le client qui a été programmé pour ça.
Donc là, on lui dit, oui, ça commence à être un point d'entrée. Mais il faut quand même attendre. Il y a encore d'autres. Pardon, j'ai été un peu long.
Non, mais ça m'intéresse parce que c'est ça qui m'intéresse, quoi.
Mais
c'est
oui, il faut y aller.
Alors, Frédéric, même question. Enfin, c'est quoi le playbook après, là, une fois qu'on a ces mi-négatifs OAT, qu'on a vendu BNP, etc. Enfin, c'est quoi le coup d'après auquel
on. Bon, déjà, il est rodé à l'exercice, surtout depuis 2020.
Qui, le client.
Le client. Oui. Voilà. Et on sait très bien que le mauvais mouvement, c'est de vendre dans la panique. Je veux dire,
vous le disiez, il n'y a pas de panique à ce stade.
Je pense que, de toute façon, un client qui vient nous voir, qui demande à être déjà, alors même si je répète, nous on est très peu France, et pour le coup, on a fait une très belle semaine et on est au plus haut sur tous les portefeuilles. Parce que si vous êtes en dollars
Le client il ne vient pas demander s'il faut
acheter. Ah là, aujourd'hui, non.
Non.
Mais
en même temps, il rattrape peut-être une opportunité.
Voilà, mais ça on va regarder. Alors, c'est vrai que le revenir sur le marché, on sait très bien les ventes paniques. Vendre, quelque part, c'est facile. Racheter, c'est beaucoup plus compliqué. On sait que quand on a des mouvements qui sont intempestifs, c'est très, très compliqué de convaincre le client de revenir. Et malheureusement, je dirais que... il a tendance à revenir même des fois trop tard. Et donc là, on va être dans un protocole assez connu sur la bourse, hein, c'est-à-dire que là, on vend quelque chose qui est une rumeur, quelque part, ou en tout cas une possibilité, et que l'acheter, comme en 81 à l'époque, une nomination quelle que soit, c'est peut-être pas la mauvaise nouvelle. Donc honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on n'achètera pas la France. Or, accident, accélération baissière supplémentaire. Mais je pense que le plus sage, c'est d'attendre, si on est joueur, soit la veille des élections, si on est sérieux, plutôt le lendemain.
D'accord.
Du 7 juillet.
Ouais. Mais le lendemain, les conditions pourraient permettre...
Oui, parce que de toute façon, c'est comme l'histoire de Mélenchon.
Je ne parlais pas d'acheter lundi, hein, forcément. Hein.
Mais quand je dis, c'est quoi le prix d'après En France, c'est toujours la même chose. On fait campagne aux extrêmes et on gouverne au centre. Et donc, on a l'habitude de ça, on voit des discours qui sont en train de changer un petit peu quand même. Et lorsqu'on va voir, et je pense que la nomination, le plus sage, c'est d'attendre peut-être la nomination d'un Premier ministre. Là, on aura peut-être un peu plus de certitude sur la trajectoire, et notamment la trajectoire budgétaire qui sera implémentée en France. Et là, il faut acheter. Parce que honnêtement, la décote qu'on a aujourd'hui sur le marché français au regard de nos sociétés, je veux bien qu'on soit un petit peu agressif, notamment sur la sphère financière, parce qu'il y a une logique là à court terme, mais honnêtement, on ne peut pas justifier avec des boîtes qui ont toujours des taux de croissance de 7 à 10%, d'avoir une sanction de 10%, voire plus sur certains acteurs.
En termes un peu macro, Thomas, est-ce que l'incertitude là générée par le cas spécifique français, mais qui envahit quand même une partie de l'Europe, est-ce que c'est une incertitude qui est de nature à alors perturber sans doute, mais remettre en cause la petite tendance macro qu'on voyait de redécollage de l'activité en Europe, avec l'idée que la BCE pouvait accompagner de quelques baisses de taux, avec un niveau d'inflation qui était quand même revenu dans des zones plus confortables. Est-ce que tout ça reste vrai encore pour les investisseurs?
Pour le moment, oui. Pour le moment, c'est de l'instabilité politique. Et comme le disait Frédéric, le marché n'aime pas l'incertitude.
L'incertitude, oui. D'accord.
Et donc, il y a du bruit.
Et l'incertitude se résoudra d'une manière ou d'une autre.
Le 7 juillet, elle se résoudra. Elle se résoudra. Pas sûr, d'ailleurs.
Ouais.
Mais on sera un peu plus fixé déjà sur ce qui va se passer. Donc, je ne pense pas que c'est de nature à changer les plans de la Banque Centrale Européenne.
Et donc, on aura toujours de la croissance en zone euro cette année. Enfin, je veux dire, on est même plutôt en train de revoir un peu à la hausse certaines estimations, etc. Ça, c'est...
Il faut attendre la fin des élections. D'accord. Et voir qu'est-ce qui ressortira. C'est dur à dire maintenant. Mmh. Il peut y avoir tellement de scénarios différents en fonction du gouvernement qui va être mis en place qu'on verra. On ne tire pas de
conclusion avant. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même des scénarios qui peuvent abîmer le scénario macro de l'ensemble de la zone euro.
Bien évidemment.
Oui.
Et les marchés sont en train de le pricer quand même.
Ouais.
Sur les taux, du moins. Sur les spreads.
Pour repartir dans une référence historique, les performances mensuelles du CAC 40, les pires dans l'histoire de la France, c'est mai 81. C'est moins 32 ou moins 33%. Même en 1940, l'indice avait... C'était pas le même, mais quand même, il avait perdu 16%. Donc je pense que ce qui fait très très peur au marché, c'est des mandatures ou des partis qui sont, entre guillemets, anticapitalistes. Je me mets dans la peau d'un anglo-saxon, hein, puisque... Évidemment, l'anglo-saxon, lui, il n'y a pas de gauche dans son état d'esprit politique.
Et il a déjà compris que la France n'était pas un grand pays le plus libéral du monde, j'imagine.
Non,
qu'il y avait une petite dose de socialisation en France
c'est un très beau pays pour passer ses vacances pour lui. Mais voilà, donc après, ce risque-là, je pense que n'existe pas vraiment. Et puis, on a toujours eu, de toute façon, comme vous l'avez dit, une orientation plus sociale ou socialiste, je ne sais pas comment dire, qu'un investisseur anglo-saxon, c'est lui hein, qui fait les directions. C'est pas nous autour de la table, on aimerait bien, mais c'est lui. Donc il faut se mettre à sa place. Donc quand on aura des parlementaires élus et un semblant de gouvernement qui n'aura probablement pas de vote de confiance, mais on vit avec ça depuis quand même un petit bout de temps maintenant, oui, je pense que ça sera un petit peu plus calme.
C'est intéressant d'ailleurs de voir effectivement comment fonctionnent alors les médias financiers anglo-saxons qui reportent de la situation politique française. Bon, les élections législatives de tour, il faut se qualifier, etc. Je pense que le système électoral est un peu compliqué pour qu'ils aient une analyse peut-être la plus fine possible. En revanche, dès que le président Emmanuel Macron affirme ou réaffirme qu'il ne démissionnera pas, qu'il en est hors de question et que ce n'est pas du tout le sujet, etc. Tout de suite, ça fait les gros titres. Pas de démission, Macron ne démissionnera pas, etc. On sent quand même que voilà, c'est derrière cette idée-là que repose quand même un peu le cas d'investissement, on va dire, français et européen pour les anglo-saxons. Quoi.
D'ailleurs, à l'annonce, le marché c'est plutôt a eu tendance à se reprendre parce
c'est
que c'est la première incertitude qui a été levée.
C'est ça.
Voilà, donc le marché vit très mal de l'incertain, mais se rassure avec ses certitudes. Donc on aura des certitudes, en tout cas, je pense, le 8 juillet. Et peu importe l'issue, je pense que le marché est capable de payer, surtout les excès qu'on a eu ces derniers jours.
Bon, il y a un marché qui paye, lui, sans attendre, c'est le marché américain, donc voilà, qui continue
très
son voyage
semaine.
À sens unique.
Très belle semaine, que des belles publications, honnêtement. On a l'histoire d'Apple qui nous a ressorti de l'intelligence
Dingue.
Artificielle, alors qu'on pensait qu'ils étaient largués. En gros, ils pluguent, pour faire simple, ChatGPT, OpenAI sur les téléphones.
Et ça suffit à les remettre number one.
Ouais, voilà, numéro un. On a eu une très belle publication dans le sillage Broadcom. Broadcom, en gros, c'est la connectivité. C'est, bah oui, l'intelligence artificielle, c'est bien beau, mais on s'aperçoit qu'il y a des utilisations. Et il faut pouvoir transmettre cette intelligence artificielle. Il faut pouvoir la distribuer au client final. Et on a eu Adobe aujourd'hui, qui a été largement sanctionné depuis 3 mois, avec notamment des polémiques sur le droit, notamment de la propriété. Hein. C'est des grosses polémiques aux États-Unis. Quid de ce que vous créez à partir du moment que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle vous appartient ou elle appartient à l'éditeur du logiciel? Et ça, c'est pas tranché.
Pour la création de valeur, oui, ça compte.
Voilà, exactement. Donc, et toutes ces publications vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a une croissance qui est très très solide, des guidance sont plutôt revus à la hausse, et vous avez un Nasdaq qui tous les jours tape un plus haut. Donc,
et donc même si c'est cher, alors pas de raison de...
C'est cher.
Pas de raison de
c'est cher,
d'un rater... Autre...
C'est cher. On relève quasiment tous les jours les perspectives de croissance sur ces boîtes. Donc c'est très très compliqué de sortir. Et en plus, là, le flight to quality pour un Américain, j'imagine, entre mettre son argent en Europe et d'avoir des entreprises de croissance et qui ne cessent de relever la croissance, c'est assez facile.
Et donc, ça se diffuse ou est-ce que ça reste très concentré S&P par les capitalisations? Ou est-ce qu'on voit des indices équipondérés qui commencent à rattraper un peu?
Pas encore.
Non,
pas encore.
Pas encore.
Juste un petit rappel, Nasdaq, 5 valeurs. 5 valeurs font 90% ou
80%
de la perf.
Oui,
donc c'est pas diffus.
D'accord.
Encore, hein.
D'accord.
Et on a vu même.
C'est même peut-être même toujours plus concentré. D'accord.
De toute façon, les phénomènes, je pense qu'on a tous vu ça chez nos confrères qui ont des gestions américaines. Nvidia, c'est la première position de tous les fonds américains aujourd'hui. 10%.
C'est rassurant ou c'est inquiétant?
Historiquement,
c'est un fait. Voilà. D'accord.
Et ils ont tous les 5 à 10% pour ne pas rater un trend qui est difficile à battre.
Ouais. Sur la partie américaine, comment vous avez pris le message de la Fed cette semaine, Thomas? Moi, j'ai eu l'impression que le discours était en fait déjà un peu en retard par rapport à toutes les données qu'on a pu avoir, différents indices de prix, des données d'emploi, etc., qui ont rendu un peu caduque peut-être même le discours ou les projections faites par la Fed.
Bah, on le voit, hein, Powell l'a même dit, une grande partie des gouverneurs n'ont pas pris en compte le CPI qui est tombé quelques heures avant. Et ça change tout, parce que quand on projette l'inflation en hausse de 0,2%, bon, c'est pas le CPI, hein, c'est le corps PCI, c'est un autre indicateur qui travaille, qui marche un petit peu différemment, mais quand la Fed projette un corps PCI à 2,8, donc 0,2 au-dessus de ce qui est anticipé, mais ce qui est exactement le niveau actuel, donc un PCI qui bouge plus de l'année, et après qui revient à la normale dès l'année prochaine, un taux de chômage à 4% globalement sur les 3 prochaines années, 4,20 l'année prochaine, mais restons à 4%, ce qui est le niveau actuel. Donc en gros, la Fed table sur un statu quo avec un dot, par contre, lui, qui remonte, donc des projections de baisse de taux. Bon, ils étaient un peu divisés entre 1 et 2, on va dire, pour cette année. Pour cette année. Plutôt 2 du coup, puisque le CPI est tombé avant, donc on peut estimer qu'il y en aura encore potentiellement 2, 4 l'année prochaine. Donc ils sont alignés au marché, hein, le marché et la Fed sont plus ou moins alignés. Nous, notre vue là-dessus, sur l'inflation, la trajectoire, pas grand-chose à dire, je pense que ça va décélérer. Il y a des mouvements qui sont en place, notamment sur le logement, ça met toujours un peu plus de temps. Il y a des indicateurs avancés qui montrent que ça devrait continuer. Par contre, on est un peu plus inquiet que le marché sur l'emploi. Parce qu'on voit, malgré un taux de chômage à 4%, des NFP, donc des créations d'emplois mensuelles, qui sont toujours en moyenne autour de 240 000, c'est extrêmement bon. Mais quand vous regardez dans le détail de ces chiffres, il y a quand même des éléments qui laissent à penser que c'est vraiment en train de se dégrader. Je pense notamment au temps plein et temps partiel. Il y a une grosse augmentation des jobs à temps partiel versus temps plein. Et ça, quand on regarde sur les 50 dernières années, ça a souvent été...
La qualité du marché du travail est plus la même aujourd'hui.
Ouais. Les multiples jobs.
Et ça peut être pourquoi ? C'est-à-dire que le risque pour la Fed, c'est de devoir en faire un peu plus que ce qu'elle a signalé au précédent meeting.
Ça, c'est le risque pour la Fed et c'est l'opportunité pour les investisseurs.
Ouais.
J'ai envie de dire, sans parler de courbe, parce que bien évidemment, avec un 10 ans aujourd'hui à 4,20, il y a
plus beaucoup de marge de baisse.
Il y a déjà une partie qui est dans les cours. Mais sur la partie courte des courbes, je pense qu'il y a encore vraiment, à jouer avec une Fed qui, à mon avis, sous-estime ce qu'elle va devoir faire. Il faudrait que toutes les planètes soient alignées pour que l'inflation diminue progressivement, que le marché de l'emploi, bon an, mal an, ça va, et qu'il cut doucement.
Donc ça veut dire quand même que ce qu'on pensait qu'il allait être un cycle de réajustement monétaire un peu brouillon, disparate, etc., en fait, c'est en train assez nettement de converger vers quelque chose d'assez cohérent, en tout cas au sein du G7, de ce point de vue-là.
Moi, ce que je pense là-dessus, c'est que la Fed va finir comme elle a fait sur la remontée des taux. Être en retard, devoir remonter de 50 points de base en 50 points de base sur la baisse des taux, c'est très probable pour moi que ça se passe comme ça aussi.
On a fait
que
75.
Effectivement. Oui. Mais ils pourront le faire aussi à la baisse.
D'accord. Donc il y a le risque qu'à un moment, on passe de 25 à 50 pour baisser les taux.
Je n'achète pas le scénario de 25 points de base, deux fois cette année, quatre fois l'année prochaine,
okay.
Tout va bien.
D'accord.
Je n'achète pas ce scénario-là.
Ce sera plus bumpy, il y aura quelque chose de non linéaire à un moment. Et des baisses de 50, c'est possible dans ce cycle.
Bien sûr, plus ils mettent de temps à enclencher le mouvement, plus cette probabilité est élevée.
Ouais. Sur ces mouvements monétaires.
Ouais, c'est la théorie de l'optionnalité. Tant qu'ils n'ont pas commencé, ils ont encore l'option 1 de décider d'une baisse et 2 de son ampleur. Ouais. Après, quand on commence, on s'est déjà grillé une ou deux options. Donc là, pour l'instant, ils attendent le moment, je pense, opportun. Le risque, c'était macroéconomiquement soit une surchauffe, soit avec les chiffres de l'emploi, des petits effets récessifs. Surchauffe, peut-être pas. Je pense qu'on est plutôt justement à se dire on va devoir relancer un peu la machine parce que l'emploi est moins bon. Il y a le risque d'endettement public quand même, un peu partout dans le monde. Et puis il y a le risque politique américain, entre guillemets le risque politique. Là on le voit.
L'incertitude.
En Europe. L'incertitude. Donc tout ça, ça ne milite pas pour faire des choses de manière trop impétueuse, si c'est ce que je veux dire. Et puis quand on est banquier central, on ne peut pas faire comme un politique, promettre. Et je conclurai là-dessus, mais c'est Confucius qui disait si tu promets quelque chose, examine si c'est juste et possible, parce que la promesse est une dette. Et donc ça reboucle les promesses politiques et la dette publique, parce qu'en fait c'est aussi ça le sujet en Europe, mais ça sera le sujet de Jérôme Powell et aussi des deux candidats à l'élection américaine.
Ouais. Bon, finalement quelque chose d'assez de plus synchronisé que ce qu'on imaginait à un moment entre la BCE, enfin les banques centrales européennes au sens large, et ce qu'on peut attendre peut-être de la Fed désormais, même si elle partira un peu en décalé, il y a quand même l'idée derrière que il y aura quelque chose d'assez
On entendait quand même des voix
synchronisées,
certains qui imaginaient que soit la Fed remonte les taux, que la BCE ne pouvait pas baisser ses taux avant la réserve fédérale. On entendait comme ça. Donc honnêtement, pour l'instant, tout ce qu'on vit, on n'a pas toujours compris ce qui se passait au niveau des banques centrales, mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt c'est plus clair.
C'est pas le sujet.
Non, je crois.
C'est moins un sujet.
On arrive à comprendre.
Ouais.
On arrive à comprendre. Donc, d'ailleurs, finalement, il y a très très peu de mouvements, je trouve, par rapport lorsqu'il y a des décisions sont prises ou lorsqu'il y a effectivement le FOMC. Je trouve qu'il n'y a pas non plus une volatilité qui explose. Je trouve qu'il y a une forme de cohérence qu'on n'a pas vu.
Ah, parce qu'il a fait bouger les taux cette semaine, c'est pas le FOMC, c'est l'inflation, sur l'inflation aux États-Unis.
C'est plus
très
ça.
Clairement. Et c'était le rapport sur l'emploi la semaine précédente.
C'est plus ça.
Dans un sens, puis dans l'autre, quoi.
Oui, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, Powell, lors d'une conférence, parlait effectivement de cette inquiétude sur l'inflation. Ça a agité un peu le marché une demi-heure, puis après c'était revenu normal. Donc je pense qu'aujourd'hui les banques centrales effectivement sont peut-être un peu plus lisibles qu'elles ne l'étaient par le passé.
Bon, place à la Banque d'Angleterre la semaine prochaine dans la séquence Banque Centrale de ce début d'été. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau, Igor Demac, directeur associé de Vital Épargne, et Thomas Vett, gérant et responsable du Fixed Income chez Spirit Asset Management.